Transistor.
La culture domine tout.
Transistor.
Web. Musicocentré, épisode numéro 13, une émission de musique classique qui vous est proposée par Clara Nouvelle. Bonjour à tous, chers auditeurs. Retrouvons-nous aujourd'hui pour une émission sous le signe du mouvement, de la transformation, en bref, une thématique éminemment baroque. À l'heure de la reproduction à l'infini, de l'interprétation surpassant la création, penchons-nous sur la temporalité des mélodies et embarquons ensemble pour un voyage à travers les métamorphoses en musique. Les métamorphoses en musique sont tout d'abord narratives. Alors, entrons dans le vif du sujet à travers les récits musicaux d'un instant crucial de transformation. Laissez-moi, pour commencer, vous conter une petite histoire. Celles qui vont au bois, c'est la mère et la fille. La mère va chantant et la fille soupire. Qu'avez-vous à soupirer, ma fille Marguerite ? J'ai bien grandir en moi et je n'ose vous le dire. Je suis fille le jour et la nuit, blanche biche.
Celles qui vont au bois, c'est la mère et la fille. Celles qui vont au bois, c'est la mère et la fille. La mère va chanter. Après moi, les barons et les princes, et mon frère Renaud, qui est encore bien pire, qu'il arrête ce chien jusqu'à le marée civile, où sont des chiens Renaud et ta chasse gentille, ils sont de le bois, encore.
On écoute ici les merveilleuses Claire Le Filiatre et Isabelle Druet, accompagnées par un ensemble exceptionnel, le poème harmonique dirigé par Vincent Dumestre. La Blanche Biche sort tout droit des légendes bretonnes. Elle est tour à tour menaçante, puisqu'elle perd les chasseurs dans les bois, ou protectrice, lorsqu'elle se fait mère nourricière de petits-enfants. Mais dans la complainte de la Blanche Biche, l'histoire prend un tour bien plus tragique. Une jeune fille, Marguerite, est victime d'une malédiction. Toutes les nuits, elle se transforme en biche blanche et doit fuir les chasseurs. Et pas n'importe lesquels. Son frère Renaud est le plus belliqueux d'entre eux. C'est alors que la tragédie s'invite à la table. On retrouve Marguerite, la tête dans le plat et le cœur aux chevilles, qui parle d'outre-tombe à la table des chasseurs, s'apprêtant à la dévorer. Très joyeux, n'est-ce pas ? La musique sert ici la montée du drame, en se faisant de plus en plus dramatique justement, jusqu'à l'accomplissement de la terrible fatalité. Et soudain, la pudeur revient, et avec elle la première strophe, qui prend alors des accents désespérés. Le chagrin d'une demoiselle révélée à sa mère, qui aurait pu être le chagrin d'amour connu par toute jeune fille, est en vérité le pressentiment de la mort à venir. Musicocentré, Transistor. On continue sur la musique vocale avec une mélodie française. Qu'est-ce à dire la mélodie française, vous demandez-vous peut-être ? Eh bien, c'est plutôt simple. L'Allemagne a le lead et la France la mélodie. Elle est le plus souvent l'adaptation musicale d'un poème qui associe la voix et le piano. La mélodie française, c'est LA grande incarnation musicale de la Belle Époque. Lorsque l'on pense à elle, on pense au Paris raffiné et dilettante d'alors, tout particulièrement incarné dans La Recherche du temps perdu de Marcel Proust. Et justement, la mélodie que nous allons écouter est de Reynaldo Hahn, un des grands compagnons de notre ami Marcel. Trois jours de vendange, notre mélodie est adapté d'un texte d'Alphonse Daudet. En quoi y a-t-il donc un rapport avec la métamorphose en musique ? Pour le savoir, écoutez bien, comme on passe du récit champêtre, insouciant voire peut-être un peu insipide, au récit d'une mort subite. La musique, au service du texte, laisse alors le mode mineur s'instiller discrètement dans le thème, comme une simple variation sûre, qui est en vérité une prédiction, un indice, que donne la musique quant au déroulement futur de l'histoire. La musique en avance par rapport au texte. La mélodie française, c'est un peu un art de la délicatesse, et donc de la litote. Le drame n'est pas servi à coups de grands arpèges dramatiques, mais plutôt d'un silence pesant qui s'installe au fur et à mesure dans la mélodie. Et le texte fait de même. L'instant de la mort est laissé dans le temps du soupir, et frappe avec l'image subite du cercueil. La fin est douce amère, un peu comme un sourire peiné. Un monde personnel a été bouleversé, mais l'époque continue, et les mélodies ne vont pas s'arrêter pour autant, pour trois simples jours de vendange.
Je l'ai rencontré un jour de vendange, la jupe troussée, le pied mignon, point de guimpe jaune et point de chignon, l'air d'une bocante et les yeux d'un ange, suspendu au bras. Un jour de vendange.
Maintenant, assez d'histoire. La métamorphose est également essentielle à la musique en ce qu'elle permet une esthétique du spectaculaire. N'est-ce pas miraculeux de voir une mélodie se mouvoir sous ses yeux ? J'en ai déjà diffusé une partie dans un podcast précédent, mais on ne s'en lasse pas. Passons maintenant au Sacre du printemps d'Igor Stravinsky. En effet, le thème et l'esthétique de la transformation sont absolument centraux dans le Sacre. La transformation, c'est d'abord, dans la première partie du Sacre, le récit d'une transformation mythique du monde, à l'approche de sa renaissance printanière. Mais dans la deuxième partie, la transformation se fait récit d'apprentissage. Une jeune fille, l'élu, est choisie parmi ses compagnes pour être le sacrifice fait à la saison nouvelle, destinée à danser jusqu'à ce que mort s'ensuive. La musique se fait alors récit de la transformation de la jeune fille en élu, de la simple humaine en intermédiaire entre les hommes et les dieux, en une situation de porosité entre la vie et la mort, jusqu'à ce que l'œuvre se finisse. Mais la métamorphose est également, et avant tout, ai-je envie de dire, harmonique. Le Sacre du printemps, c'est l'œuvre de la métamorphose par excellence. Elle est un point de non-retour dans l'histoire de la musique. Le tonal se mêle au modal, et le dissonant crée un nouveau paradigme d'harmonie et de beauté. Le bouleversant devient grinçant, et l'extrême violence trouve sa place au cœur de la délicatesse. La musique est transfigurée. On écoute l'ensemble Musique Aeterna, dirigé par le fabuleux Théodore Courensis. Musicocentré, Transistor. Poursuivons notre exploration au gré des transformations musicales avec une pièce de Max Richter, Orlando, tirée des Three Wolf Works, inspirée eux-mêmes d'œuvres de Virginia Woolf. Orlando, de Virginia Woolf donc, c'est le grand récit de la métamorphose, de la transformation, de l'androgynie. Pour faire court, noble à la cour d'Élisabeth Ière, Orlando tombe dans un sommeil surnaturel qui le transforme en femme. Au cours de sa longue vie, il côtoie ainsi tous les genres et classes sociales dans une esthétique du mouvement et de la souplesse jusqu'à la publication de sa grande œuvre littéraire, Le Chêne. À propos d'Orlando, Max Richter dit, je cite, « J'ai immédiatement pensé aux similitudes avec la forme variation qui est devenue la base de la musique d'Orlando. Le thème que j'ai choisi pour ces variations est le célèbre morceau « La Folia », qui a été utilisé par de nombreux compositeurs depuis le milieu du XVIIe siècle, comme Corelli, Marais, Lully, Vivaldi, Bach, Scarlatti, Handel et Geminiani. Cependant, j'ai voulu que cette palette soit unique. Donc, en plus des variations par l'orchestre, les instruments seuls et la formation de musique de chambre, j'ai ajouté également des variations entièrement électroniques. » Fin de citation. Ainsi, la métamorphose du personnage de Virginia Woolf est ici servie par une métamorphose musicale, la variation, vous l'aurez compris, qui est également une métamorphose temporelle du baroque jusqu'à la musique électronique et qui suit le parcours d'Orlando à travers les siècles. Fabuleux le pouvoir narratif de la musique, n'est-ce pas? On écoute donc le Deutsches Filmorchester Babelsberg, dirigé par Robert Ziegler, et au violon, Marie Samuelson. Je vous propose maintenant de plonger dans la complexité des métamorphoses musicales, c'est-à-dire les transformations harmoniques. En effet, le mouvement ne se fait pas que dans la ligne narrative ou mélodique. Il y a derrière cela un complexe artisanat harmonique qui permet de donner à la musique l'entière variété de ses couleurs. Tant que nous sommes dans l'esthétique de la variation, permettez-moi de vous présenter un thème et variation que j'apprécie tout particulièrement, les variations sur un thème de Paganini de Brahms. Le thème originel, composé donc sans surprise par le virtuose Paganini, vous le connaissez peut-être, il s'agit du très célèbre 24e caprice pour violon seul. Peut-être l'avez-vous même entendu via Rachmaninoff, qui a également composé des variations dessus, musique ensuite reprise pour le ballet Rhapsody d'un de mes chorégraphes favoris, Frederick Ashton. Puis bon, comme cette émission est avant tout une déclaration d'amour à la musique classique, je n'ai pas pu me décider et je vous propose d'écouter quelques extraits des variations de Brahms et de Rachmaninoff. Et finalement, c'est plus que jamais dans le thème de la métamorphose. Entendez comment chaque compositeur s'empare différemment du même thème initial. C'est peut-être même sous cette forme contraignante que s'entend le mieux l'âme de chaque musicien. Je vous invite tout d'abord à écouter le thème, manipulé par Brahms puis par Rachmaninoff. La manière dont ils diffèrent déjà l'un de l'autre. L'atmosphère est radicalement différente et pourtant on part de la même cellule mélodique. Voilà le thème et une variation telle que manipulée par Brahms. Et maintenant, voyons comment s'y prend Rachmaninoff. Écoutons maintenant quelques autres des variations de Brahms. La première que je vous fais écouter, c'est d'abord un choix purement personnel, c'est une de mes variations préférées, et puis elle permet de voir comment cette cellule est manipulée pour devenir quelque chose d'un peu bouleversant, de très mélodique. Les autres variations, ce sont les variations qui concluent le livre 1, et c'est plutôt pour vous montrer la manière dont cette simple cellule peut devenir un mouvement absolument virtuose. Puis pour le plaisir, écoutons la 18e variation de Rachmaninov. C'est la Rhapsodie, elle est célébrissime, vous l'avez sûrement entendue dans plusieurs films, on ne s'en lasse pas. Pour le plaisir, écoutons-la.
Thank you.
Magnifique, n'est-ce pas? Pour Brahms, on écoute Claudio Arrau au piano. Et pour Rachmaninov, il s'agit de Vladimir Ashkenazy avec le London Symphony Orchestra dirigé par André Prévin. Musicocentré, Transistor. Dites métamorphose en musique et tout de suite l'on pense au Metamorphosen de Strauss. Et par Strauss, n'entendez surtout pas les frères Strauss, aussi appelés les rois de la valse, mais entendez plutôt le compositeur Richard Strauss, qui avec Mahler est l'un des piliers du romantisme déliquescent. Metamorphosen est une pièce particulièrement impressionnante de par sa construction. Faite tout d'un bloc, un seul mouvement d'environ 25 minutes, l'œuvre est composée pour 23 instruments solo. Ainsi, chaque ligne est indépendante. C'est en quelque sorte une prouesse technique. Ainsi, la métamorphose, c'est ici celle de ce motum perpetué qui se meut sans interruption ni rupture, à la manière d'un reflet dans l'eau qui révèle peu à peu la vaste palette de son iridescence. Et puis, pour cette pièce composée entre 1944 et 1945, la métamorphose, c'est également celle de l'époque, la pièce devenant alors une élégie du monde d'hier. Alors vous vous en doutez bien, on ne peut pas tout écouter, c'est malheureux, mais je vous invite à écouter la suite. En tout cas, nous écoutons le Berliner Philharmoniker dirigé par Herbert von Karajan. musicocentré, transistor. Mais la métamorphose se fait au-delà de la temporalité de la pièce elle-même. En effet, la musique se transforme au fil des siècles. Elle se reçoit, se redécouvre, se reconstitue. La métamorphose, c'est ce qui permet à la belle musique de se comprendre à travers les siècles et de résonner en chaque homme malgré le temps qui passe. Et puis pour finir, la métamorphose de la musique, c'est aussi sa transformation dans le temps. Pour réfléchir à cela, je vous propose d'écouter une adaptation fabuleuse que j'ai découverte il y a peu par hasard. L'ensemble Arpeggiata a fait paraître un album il y a quelques années, dans lequel des chefs-d'œuvre du baroque se voient actualisés par une petite touche jazz que je trouve du meilleur goût. Cela montre à quel point la musique se vit et se ressent à toute époque, surtout la musique baroque, vivante par excellence, propice à l'improvisation et à la jubilation de l'amusement plutôt qu'à l'excès de cérémonie. On écoute donc l'ensemble Arpeggiata, dirigé par Christina Pluart, dans une adaptation de When I Am Laid in Earth, extrait de l'opéra Didon et Aeneas de Purcell.
Thank you.
comment écoute-t-on, aujourd'hui, de la musique classique? Est-ce qu'on en fait un monument, en la mettant sous une vitrine intouchable, vouée à prendre la poussière à la lumière des regards distants? Ou alors, est-ce qu'on montre son actualité, à quel point la finesse des émotions qu'elle décrit reflète toute la palette de nos émotions actuelles? Pour ma part, chers auditeurs, je choisis de vivre avec la musique et de la faire vivre avec moi. C'est peut-être ça, la beauté d'être musicocentré. Merci à tous, chers auditeurs, pour votre fidélité et à bientôt pour une nouvelle thématique.